Всем доброго ранку.
Bonjour à tous. Bonjour à tous mes compatriotes ukrainiens. De nombreuses fausses informations circulent sur Internet en ce moment. Ces informations disent que je demande à notre armée de déposer les armes et qu'une évacuation est en cours. Eh bien, je suis là. On ne va pas déposer les armes et on va défendre notre pays. Parce que la vérité est notre arme. La vérité, c'est que c'est notre terre, notre pays, nos enfants. Et nous défendrons tout cela. C'est ce que je voulais vous dire. Gloire à l'Ukraine.
Histoire 2, Patrick Boucheron sur France Inter.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. À qui s'adresse le président Zelensky ? À son peuple, bien entendu, résistant avec un courage qui force l'admiration à l'invasion russe de l'Ukraine. Mais à l'Europe et au-delà, puisque depuis le 24 février, le monde tout entier s'en trouve ébranlé. Ukraine, leur guerre, notre histoire. Tel est le titre de l'émission spéciale que nous avons décidé de consacrer en direct à ce qui nous oblige et nous requiert, parce que la vérité est notre arme, affirme justement le président ukrainien. Chacun a pu s'en rendre compte, le crime de Poutine fut d'abord perpétré contre la vérité de l'histoire. On dit que le tyran, isolé de tous, prisonnier de la peur qu'il inspire, ne s'intéresse à rien d'autre qu'aux archives et aux récits historiques. En les manipulant sans méthode, il s'est persuadé que la Russie fut toujours humiliée par l'Occident et que l'Ukraine, comme État et comme nation, n'existait pas. La constitution russe de 2020 impose la foi en cette doctrine historique sacrée. Et après avoir dissous l'ONG Mémorial, gardienne du souvenir des victimes du stalinisme, Poutine bombarde le site du massacre des Juifs à Babi Yar. Malheur au peuple dont les chefs prétendent réviser l'histoire. Les assassins de la mémoire finissent toujours par devenir des assassins tout court. Nous en parlons dans Histoire 2, avec Yulia Choukane d'abord, puis dans la deuxième partie de l'émission, Anna Colin-Lebedev et Sabine Dulin, toutes éminentes spécialistes de l'Ukraine et des mondes russes. Nous en parlons, car la vérité historique ne se décrète pas, elle se constate et se construit ensemble. Et cela, oui, ce sont nos armes. Yulia Choukane, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en études slaves à l'Université Paris-Nanterre. Vous travaillez sur la sociologie politique des conflits armés, des mobilisations collectives en Ukraine, mais aussi en Biélorussie. Et dans vos travaux, vous décrivez une société aguerrie, mobilisée, résistante depuis la guerre du Donbass en 2014. Ça fait 8 ans que les Ukrainiens résistent. Et c'est cette histoire qu'il faut d'abord raconter. On a eu la mémoire courte en Europe.
Je trouve aussi qu'on oublie souvent que l'Ukraine vit effectivement un conflit armé depuis déjà 8 ans et que cette mobilisation citoyenne, elle ne date pas d'aujourd'hui. Certes, elle nous impressionne quand on voit ces images de civils qui s'engagent dans la défense territoriale, prennent les armes et donc défendent leur ville, ou encore de civils qui se mobilisent à l'arrière en soutien à l'armée, ou encore juste par solidarité avec les réfugiés, les Ukrainiens qui fuient les villes sous bombardement. Mais il ne faut pas oublier que l'Ukraine est en guerre donc depuis le début de l'année avril 2014, et que cette guerre a nécessairement concerné de larges segments de la population, fait l'objet de mobilisations et a créé un certain nombre de réseaux sur lesquels s'appuie aujourd'hui cette mobilisation.
Oui, et ces réseaux qui se mobilisent aujourd'hui, ce sont d'abord des réseaux pour informer de ce qui se passe, ou relayer par exemple le journal poignant d'une journaliste politique ukrainienne, votre amie Kristina Berdinskik, qui se demande si elle a eu raison de partir. De ne pas partir, justement, elle est avec sa mère, avec ses amis.
Kristina raconte effectivement son quotidien, la façon dont elle passe les nuits quand les sirènes de la défense antiaérienne se déclenchent et qu'elle est obligée de se cacher, comme beaucoup d'autres qui y viennent, dans le métro de Kiev. Elle a fait le choix de ne pas faire son travail de journalisme, d'ailleurs, de s'occuper plutôt des siens, comme beaucoup d'autres Ukrainiens sont en train de le faire en ce moment. Et donc, elle est avec sa mère et sa nièce, à rester mobilisée. Elle a fait ce choix de ne pas quitter Kiev et elle s'en tient à ce choix. Elle l'assume totalement, alors que beaucoup de ses amis, voilà, on a essayé de la pousser aussi à quitter la ville. Et donc, elle raconte ce quotidien. Et ce récit est à l'image d'autres formes d'engagement, puisqu'on a beaucoup d'autres amis, enfin, moi personnellement, mais nous toutes, nous avons beaucoup d'autres amis qui, pour le moment, ne souhaitent pas quitter leur ville, que ce soit Kiev ou Kharkiv, ou encore d'autres villes, Kherson dans le sud du pays, ils ont décidé de soit ils ont du mal à quitter leur ville pour ceux qui le souhaitent, soit ils ont décidé de rester et de s'engager, de continuer leur travail en tant que journaliste, en tant qu'activiste de la société civile, en tant que simple citoyen tout simplement qui s'engage dans tous ces réseaux de bénévolat, d'entraide pour les civils très très nombreux qui ont du mal à quitter, à fuir la guerre.
Et vous pouvez trouver le lien de ce témoignage sur notre site. Yulia Chokan, en 2013, vous avez publié aux éditions de l'Aube, Génération Maïdan, vivre la crise ukrainienne. Et justement, c'est une galerie de portraits aussi, on y rencontre des citoyens ordinaires que la situation a fait révolutionnaire. Ainsi, un ouvrier en bâtiment, Evan Hout, qui s'embauche sur des chantiers lointains. Et c'est là, c'est sur ces chantiers qu'il prend la mesure de l'ampleur, de la corruption, de la prévarication. J'en ai eu tout simplement marre, vous dit-il, et c'est lui qui s'engage donc à Maïdan, c'est-à-dire cette révolution. Racontez-nous un petit peu ce désir d'Europe.
J'ai essayé à travers cet ouvrage effectivement de raconter les formes d'engagement extrêmement ordinaires pour rendre compréhensible cet engagement, pour que nous tous, Européens ou Français, on puisse s'imaginer à la place de ces gens ordinaires. Et donc l'histoire de Yevgen, c'est l'histoire d'un engagement donc pour ce modèle européen, puisque c'est ça qui parle aux Ukrainiens, c'est cette volonté, cet idéal, certainement, c'est une représentation extrêmement idéalisée d'Europe.
Vous dites, c'est un référent imaginaire, hein, parce qu'ils pensent qu'en Europe, il y a pas, on défend les droits, l'égalité, la dignité.
Il faut rappeler que le mouvement commence, effectivement, suite au refus du président Yanukovych, donc le chef de l'État ukrainien de l'époque, de signer l'accord d'association avec l'Union européenne. Et effectivement, c'est cette aspiration, cette volonté d'Europe qui va mobiliser les Ukrainiens. Et dans le cas d'Yevgen, il a une représentation extrêmement idéalisée, puisque pour lui, l'Europe, c'est un idéal de démocratie. Pour lui, l'Europe, ce sont des administrations efficaces et non corrompues, celles qu'il connaît précisément en Ukraine. C'est aussi la liberté de mouvement, de circulation, puisqu'il est ouvrier en bâtiment, donc il s'engage sur des chantiers et travaille à la fois en Ukraine, mais aussi occasionnellement dans l'Union européenne. Et donc c'est tout un ensemble de ces représentations qui le conduisent à s'engager dans ce mouvement. Et ensuite, il y a d'autres trajectoires que je retrace. Je montre comment la violence d'État touche ces citoyens, les conduit à s'engager, à développer de nouvelles formes d'action, à se radicaliser même.
Oui, c'est ça, il y a une militarisation.
Il y a une militarisation, mais elle a lieu en réponse à cette politique, cette réponse extrêmement sécuritaire sur laquelle mise Yanukovych, puisqu'il essaie, l'État essaie à plusieurs reprises de dégager Maïdan, donc délègue la violence d'État aussi à des agents non étatiques, ce qui provoque encore plus l'indignation des citoyens. Et ensuite, il y a les morts parmi les manifestants, et donc à partir de ce moment-là, c'est le total, parce qu'il y a deux grandes séquences à la mi-janvier d'abord et ensuite à la mi-février. Et le total des morts, effectivement, c'est près de 80 personnes, ce qu'on appelle en Ukraine la ceinturie céleste.
Nous avions oublié effectivement ce désir d'Europe qui s'était exprimé à Maïdan. Poutine, non, ne l'avait pas oublié. C'est peut-être ça qu'il craint.
Certes, c'est ça, mais je pense qu'il faut le rappeler. Je me souviens encore en 2014 comment c'était très très difficile de faire comprendre, même à nos amis intellectuels parfois, chercheurs, ce désir d'Europe. L'Europe est tellement mal vue, mal perçue chez nous que effectivement c'était extrêmement dur d'expliquer. D'où d'ailleurs ma démarche aussi de décrire un certain nombre de représentations. Et Vladimir Poutine, non, puisqu'il considère l'Ukraine effectivement comme son terrain d'influence, comme la sphère d'influence de la Russie, et donc depuis 2014 d'ailleurs, il dénie le droit d'existence à cet État en reconstruisant tout le narratif historique autour donc de l'État ukrainien, en déniant aussi de la légitimité au gouvernement, le gouvernement qui a été renouvelé à plusieurs reprises en Ukraine, qu'il s'agisse des législatives ou encore des élections législatives ou présidentielles.
Génération Maïdan, il faut lire ce livre, Yulia Chokan, le vôtre, pour comprendre effectivement d'où vient cette force, cette mobilisation, parfois de gens, vous l'avez dit, modestes. Vous avez des nouvelles d'eux, par exemple, Olesya Zoukovska, vous en faites un beau portrait, c'était une infirmière, elle avait 21 ans à ce moment-là.
J'ai continué à poursuivre effectivement les trajectoires de ces personnes. Mon idée, c'était de voir de quelle façon cet engagement modifie à la fois les représentations, l'appartenance nationale, mais aussi fait dévier les trajectoires de ces personnes. Olesya, à la suite du Maïdan, elle s'est engagée, elle est infirmière sur le Maïdan, donc elle est blessée pendant les séquences tragiques, du mois de février. Elle s'est engagée dans les études elle a poursuivi ses études de médecine, s'est spécialisée en ophtalmologie. Je n'ai pas eu récemment de ses nouvelles, donc je ne sais pas si elle fait partie de ceux qui continuent à résister. Elle était à Kiev jusqu'au début de l'invasion, ou pas. Je peux donner d'autres exemples.
Oui.
Lesia Roberts, à l'époque, elle est députée de la Rada, et donc elle navigue entre le Maïdan, donc cette place, cette cité fortifiée qui résiste au régime, et le Parlement. Elle communique énormément aux médias, parce qu'elle est anglophone, et donc elle essaye de relier des messages aussi en direction des publics extérieurs, et aujourd'hui elle a repris du service. Alors que depuis 2014, elle s'est retirée de la vie politique, elle est revenue effectivement. On a vu des images d'elle et de son mari, les deux se sont engagés dans ces bataillons civils de défense territoriale, donc ils défendent Kiev, et elle a repris du service aussi du point de vue de la communication en anglais. Vous pouvez lire sur Facebook, c'est son carnet, elle tient un carnet journalier où elle raconte effectivement l'expérience, à la fois des simples Ukrainiens, donc des habitants de Kiev, mais aussi donne des nouvelles de la défense.
Mais oui, parce que c'est la guerre, et cette guerre est aussi une guerre d'information, donc les Ukrainiens réussissent à mythifier d'ailleurs en direct leur résistance héroïque, comme celle des soldats de l'île des Serpents en mer Noire, ou ce pilote qui aurait abattu à bord de son MiG-29 6 avions russes dans le ciel de la capitale, et qu'on appelle déjà le fantôme de Kiev. Mais vous, Yulia Shukhan, ce qui vous intéresse, ce sont d'autres photos plus modestes qui circulent sur les réseaux sociaux, où l'on voit par exemple des femmes âgées pour certaines, qui se réunissent dans les écoles pour tresser des filets de camouflage. Et ça, effectivement, c'est cette profondeur des réseaux d'aide aux soldats, au front, aux réfugiés, qui s'organisent ou qui se réorganisent parce qu'ils étaient déjà là.
Cette mobilisation qu'on voit aujourd'hui ne nous surprend pas. Nous sociologues qui avons poursuivi nos travaux sur l'Ukraine depuis 2014, puisqu'effectivement on a vu la mise en place de ces puissants réseaux de bénévolat en soutien à l'armée, en soutien aux déplacés internes, et beaucoup de femmes, puisque cette mobilisation est structurée par des lignes genrées, donc on voit beaucoup de femmes à l'arrière se consacrer effectivement en soutien et solidarité avec les lignes de front aujourd'hui, mais on a vu aussi d'autres expériences, des expériences de femmes engagées à l'époque, en 2014, dans les bataillons de volontaires, ou des femmes engagées dans l'armée. Et donc, oui, l'importance de ce bénévolat est extrêmement important. Ce bénévolat est extrêmement important du point de vue de la logistique, aujourd'hui, de la résistance. Et à cet égard, les images ne nous impressionnent pas.
Oui.
Puisqu'il y a eu déjà une mobilisation au long de 8 ans, et la guerre est devenue une sorte de routine quotidienne. J'ai continué à
travailler. Il y a des savoir-faire, en fait.
Des savoir-faire, mais qui se réactivent aussi pour certains, pour ceux qui pensaient que la guerre est un peu loin. Quand on est à Kiev, elle pouvait paraître loin, parce qu'elle était localisée plutôt à l'est du pays, donc dans le Donbass ukrainien. Mais c'est des gens qui avaient déjà résisté, notamment sur le Maïdan, pour beaucoup de Kieviens, ou des gens qui s'étaient démobilisés, tout simplement, qui ont été mobilisés dans les vagues pendant les vagues de mobilisation au début de la guerre, qui ont essayé de reconstruire leur vie dans le civil, et qui aujourd'hui se retrouvent de nouveau mobilisés, et donc se réengagent une fois de plus, soit dans la défense territoriale, soit dans les forces armées.
Avec l'idée peut-être aussi, Yulia Shukhan, que cette politisation produit une réidentification nationale, que le nationalisme ukrainien change. Bah, par exemple, on en a eu d'une certaine manière un écho dans la presse française qui s'est avisé que Kiev était le nom russe pour la ville, qu'il est difficile de prononcer pour un Français. Donc,
Kiev.
Oui, c'est ça. Mais d'une certaine manière, les Ukrainiens, ils sont bilingues, non? Enfin, je veux dire, le rêve de Maïdan, c'était un pont entre l'Europe et la Russie. Donc, ce nationalisme n'est pas exclusif.
La pratique du bilinguisme, du moins passif, est propre à plus de 90% des Ukrainiens. Mais ce qu'on voit effectivement, c'est que dans les guerres, il y a ces phénomènes de réidentification. Réidentification par le bas, et réidentification au sens de l'identité civique et pas du tout l'identité ethnique. Depuis déjà presque 8 ans, je travaille à l'est de l'Ukraine, dans la ville de Kharkiv, auprès des femmes bénévoles engagées en soutien à l'armée. Ce sont des russophones. Que j'ai vu effectivement évoluer sur ces 8 ans, puisque leur engagement est extrêmement long, et ce suivi longitudinal me permet de montrer comment elles se sentent aujourd'hui beaucoup plus fortement attachées à l'Ukraine, comment elles mettent en avant leur ukrainité, et comment aussi, sous l'impact de la guerre, elles cherchent à prendre de la distance avec la langue russe. Parfois la pratique de la langue, basculer d'une langue à l'autre peut être difficile. Je parle de la pratique active et non pas passive, mais j'ai vu au long de ces années effectivement cette volonté de passer vers l'ukrainien. Et juste pour vous donner un dernier exemple, j'ai aussi beaucoup d'amis russophones à Kiev ou encore encore à l'est de l'Ukraine, ils ont basculé vers l'Ukrainien aussi depuis l'invasion russe.
Bien sûr, vous connaissez Vopliovidoplyasova, que je prononce très mal,
c'est un groupe connu, même en France.
Connu en France,
oui, tout à fait.
Eh ben, on l'écoute et puis on reprend notre conversation après.
Histoire 2. Patrick Boucheron sur France Inter.
L'Ukrainienne, tel est le titre d'un livre magnifique de l'écrivain autrichien Joseph Winkler. La traduction française vient de paraître aux éditions Verdier. C'est le récit douloureux d'une jeune paysanne plongée dans la nuit nazie, puis stalinienne, Nietoshka. Et son nom, ce qui veut dire presque rien. Mais ce presque rien, dit l'écrivain, qui recueille ses souvenirs, m'a extirpé de mon recoin où les araignées avaient déjà tissé leur toile. Ukraine, leur guerre, notre histoire, nous aussi nous extirpons de notre recoin, toujours en compagnie de la sociologue Yulia Choukan, qui est rejointe par la politiste Anna Colin-Lebedev, bonjour.
Bonjour.
Et l'historienne Sabine Dulin, toutes deux spécialistes également de l'Ukraine et des mondes russes. Sabine Dulin, vous êtes professeure à Sciences Po, vous êtes historienne de l'Empire russe et de sa frontière épaisse. On vous a déjà entendu ici même le 8 décembre à propos du peintre Répine. On disait qu'il était né en 1844 à Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine. Et là, ben, si on le redit aujourd'hui, ça ne fait plus le même effet. Dans l'ironie du destin, qui est votre dernier livre, vous montrez effectivement que les autocrates russes ont toujours, d'une certaine manière, payé au prix fort, je vous cite, les erreurs et les frayeurs de leur politique. Là, on y est à nouveau. Hein.
Oui, alors c'est vrai que hélas, Poutine est peut-être en train d'écrire le dernier chapitre ou le chapitre suivant de mon histoire, mais effectivement, j'insiste sur le fait que d'un certain côté, les autocrates ont à la fois des projets à long terme, ce qui n'est pas souvent le cas des dirigeants dans les démocraties, mais qu'en même temps, ils sont souvent mus par des frayeurs qui sont souvent très irrationnelles, et également, ils font de graves erreurs. Donc évidemment, là, quand on voit la manière dont Poutine lance cette guerre d'agression contre l'Ukraine, on se rend compte à quel point il est en fait... Il retarde sur nos sociétés. Finalement, il est au milieu du XXe siècle. Il croit pouvoir refaire, je sais pas, Budapest 1956, oui. ou Munich quand Hitler avait conquis les Sudètes. C'est-à-dire que il ne prévoit pas de résistance. Il ne prévoit pas le fait qu'il y a des sociétés civiles en face qui ont envie d'autre chose, qui sont passées à autre chose aussi. Et là, on voit bien à quel point on a d'un côté une sorte de nationalisme réactionnaire, celui de Poutine, qui est un nationalisme de type impérial, qui veut dominer les nations environnantes, qui envisage effectivement les Russes comme la nation dominante. Et en face, un nationalisme, au contraire, un nationalisme à la limite à la française, à l'époque de Renan, quoi, un plébiscite de tous les jours, c'est-à-dire la nation comme un choix politique, comme un choix de société, et au point que en Ukraine aujourd'hui, et même en Russie, peut-être, un certain nombre de Russes se sentent plus ukrainiens que russes.
Et justement, cette résistance ukrainienne, on tente de la comprendre avec vous aussi, Anna Colin-Lebedev. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de Paris-Nanterre. Vous avez travaillé, vous aussi, sur l'action protestataire en Russie, en Ukraine, avec les combattants et les anciens combattants des conflits armés dans le Donbass. Et vous avez publié en 2013 un très beau livre aux éditions de l'EHESS, « Le cœur politique des maires ». Analyse du mouvement des maires de soldats en Russie. C'est une association ancienne qui date des années 80, qui a acquis de l'importance lors de la terrible guerre de Tchétchénie. Et en étudiant justement les requêtes adressées par des femmes souvent modestes au comité des maires des soldats, la manière dont l'inquiétude individuelle se convertit en revendication collective, vous avez aussi réévalué cette capacité protestataire des sociétés post-soviétiques.
Oui, alors là, je pense qu'on a vraiment une différence très importante entre les sociétés russes et ukrainiennes dans la manière de s'adresser au pouvoir avec son mécontentement ou avec une protestation. Ou en Ukraine, ça prend effectivement ça prend facilement des formes d'action publique, de rassemblement public, de protestation ouverte. Là où en Russie, petit à petit, se construit une manière d'agir face au pouvoir, disons complètement différente, où on va utiliser des liens de proximité, passer par des voies détournées, on va utiliser le contournement des institutions étatiques quand on est mécontent. Et cette association des maires de soldats, en fait, a souvent été décrite comme comme une des ONG qui fonctionnait en Russie, là où pour toutes les autres ce n'était plus possible, ou là où, disons, l'action civique se délitait. En réalité, c'est vrai qu'il est important de comprendre pourquoi les maires, en tant que maires, en fait, sont un point de repère pour les guerres. Et effectivement, la première, les mouvements des maires de soldats se constituent en 1989, on est au moment où l'Union soviétique sort ses troupes armées d'Afghanistan, donc ça se constitue au moment où une guerre se termine, quelques années plus tard, au moment de la guerre en Tchétchénie, c'est en fait les maires qui vont jouer le point pivot entre les deux sociétés en guerre. Et il est intéressant de voir qu'aujourd'hui, ce que l'on observe dans cette guerre qui a démarré par l'agression russe le 24 février de cette année, en fait, on demande à nouveau aux maires de jouer ce rôle pivot et de sensibiliser la société russe à ce qui est en train d'arriver. Il y a pas mal de similitudes que l'on observe.
Mais Poutine ne pourra pas longtemps... cacher en fait les pertes qui, on le comprend, sont importantes aussi du côté russe, du fait de cette résistance ukrainienne. Donc, sans vouloir vous demander ce qui va se passer les unes les autres, bien sûr qu'il y a là la possibilité quand même d'une mobilisation, d'une contestation.
Alors justement, pas forcément, dans la mesure où, oui, individuellement, les cercueils vont arriver dans les villes et les villages de Russie, c'est déjà le cas. Certains parents reçoivent la nouvelle de la mort de leur enfant au front. Il y a des des chiffres qui commencent à être avancés par le ministère de la Défense. Cependant, à la différence des années 1990 et même du début des années 2000, aujourd'hui en Russie, une connaissance individuelle et un mécontentement individuel ne peut pas forcément se transformer en une protestation collective sur la place publique, et encore moins, je dirais, depuis hier, on a un nouveau basculement où toute remise en question de l'armée russe, toute mention qui peut être différente des chiffres officiels,
oui,
ou des déclarations officielles sur l'état de l'armée, sur les pertes humaines, sur la guerre, est désormais directement punissable par de la prison.
Yulia Chokan, sur cette question justement de du temps qui passe, parce que vous avez commencé vos terrains l'une et l'autre, vous l'avez dit, il y a 10 ans, tout va très vite quand même dans cette reconstruction du nationalisme et des nationalismes, je dirais, affrontés, exacerbés.
On a commencé bien plus longtemps, en fait, et pas que ces 10 dernières années, mais effectivement, on a beaucoup suivi, enfin, pour Anna, à la fois le côté russe et ukrainien, et pour moi le côté ukrainien. Et pour le nationalisme ukrainien, je pense que je distinguerai les deux composantes. À la fois, on a l'action publique, effectivement, autour de la construction de l'État national, mais qui ne date pas de 2014, qui date depuis l'indépendance ukrainienne, donc depuis 91. Et on a, effectivement, sous l'impact de la guerre, cette action publique s'est renforcée, à la fois autour de la construction du récit mémoriel, d'un certain nombre de politiques de promotion de la langue ukrainienne. Une fois de plus, la Russie, en tant qu'ennemi, enfin, cette image-là s'est cristallisée depuis 2014. Et ensuite, c'est ce nationalisme par le bas que j'ai déjà évoqué, parce que dans la guerre aussi, ces représentations très ordinaires et le sentiment d'appartenance se trouvent réactivés. Et on a vu effectivement en Ukraine beaucoup de personnes qui pouvaient se définir de façon très locale, ils étaient habitants d'un territoire, d'une ville, mais qui n'avaient pas un lien extrêmement fort à l'État ukrainien, se sont sentis, puisqu'ils se sont sentis agressés aussi dans leur quotidien tout simplement, se sont réidentifiés et ressentent aujourd'hui leur appartenance à la nation ukrainienne, ce qui explique aussi leur mobilisation, et c'est ça qui surprend, et surprend peut-être certains occidentaux, mais ça surprend aussi, j'espère, ça surprend aussi côté russe, parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours une très très mauvaise compréhension de ce que c'est cette société ukrainienne en Russie.
Sabine Dulin, il est sans doute un peu vain de vouloir récuser point à point le négationnisme poutinien, dont ses outrances sont évidentes, mais il y a quand même un point qui intrigue dans son discours interminable, paranoïaque et shakespearien, on va dire, de la nuit du 24 février, il accuse Lénine d'avoir arraché à la Russie des territoires historiques comme l'Ukraine, agissant, je le cite, de façon vraiment peu délicate. Bon, en termes de délicatesse, effectivement, c'est un spécialiste. C'est l'occasion quand même de rappeler que pour Lénine, justement, qui défendait le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, l'ennemi, c'était le nationalisme, et le pire nationalisme, c'était le nationalisme du grand russe dominateur.
Oui, alors là, il est évident que Poutine est dans un héritage qui va bien au-delà de l'héritage soviétique. Hein. Il a une culture politique qui est bien sûr marquée par l'Union soviétique, mais qui est aussi dans la lignée d'une sorte de monde russe dans lequel la nation russe domine, hein, donc du temps des tsars, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, sa dernière intervention évoque la nécessité de repasser à l'idée d'une Ukraine-province. Hein. Donc, on a bien cette vision d'une hiérarchie des nations avec la Russie au-dessus et les petites nations autour, hein, et les petits Russes, hein, comme les appelaient comme on appelait les Ukrainiens à l'époque des derniers tsars. Donc oui, il est dans cette vision-là. Et évidemment, Lénine à côté est quelqu'un qui avait voulu établir une égalité entre les nations au sein de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Pour lui, l'Ukraine devait rentrer à égalité de la Russie, justement pour lutter contre ce qu'il appelait le chauvinisme grand russe. Donc on est évidemment dans un retour vraiment en arrière, hein, de la part de Poutine, et c'est évident que en face on a un nationalisme bien plus ouvert, et c'est là où on voit bien qu'on est dans l'inversion de ce que reproche Poutine au nationalisme ukrainien, puisqu'il a tendance à parler de la dénazification de l'Ukraine, comme si on était à la fin de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne, hein, avec la dénazification de l'Allemagne. Sauf que, justement, il y a certes eu un nationalisme ethnique qu'on appelait donc le nationalisme des Banderovtsi de la Seconde Guerre mondiale, mais ce nationalisme qui a pu tenter la collaboration avec Hitler pour lutter contre l'annexion soviétique dans l'Ukraine occidentale est en fait un nationalisme tout à fait résiduel aujourd'hui face à ce qui est plutôt un nationalisme civique, un nationalisme effectivement ouvert finalement à toutes les nationalités du moment qu'il est dans le projet finalement d'une Ukraine anti-Russie. Parce que sur le fond, l'Ukraine se pose comme une option politique contre la Russie.
Bien sûr, donc Poutine fait la leçon aux Ukrainiens en leur expliquant qu'il n'existe pas comme nation. C'est une histoire qui relève de la psychopathologie, dit la grande écrivaine russe Lyudmila Ulitskaya. Anna Kouelan-Lebedev, évidemment, on peut bien imaginer que ces outrances ne sont pas toutes reçues telles quelles dans la société russe, mais qu'est-ce qu'elle en retient? Comment on enseigne cette histoire en Russie, et quelles sont les différences entre l'enseignement de l'histoire en Russie et en Ukraine?
Je pense que la différence fondamentale, c'est que l'Ukraine a cherché à réécrire l'histoire à l'aune de son indépendance, et donc de trouver d'autres personnages marquants, d'autres jalons chronologiques, un autre récit national.
Donc depuis 1991.
Depuis 1991, depuis 1991, là où la Russie a finalement remodelé vraiment à la marge la vision soviétique de l'histoire. Disons, on y a ajouté une prise de conscience des crimes du régime soviétique, ça a été effectivement ça fait partie de l'histoire publique et que les Russes connaissent, même si aujourd'hui on cherche à faire en sorte de minimiser ça dans la prise de conscience de la population. Mais de manière générale, c'est une histoire où la Russie est au centre et où l'expérience soviétique est aussi une expérience de rassemblement. Donc je dirais que ce que les Russes savent de l'histoire de leur pays fait écho au discours poutinien, mais en même temps ils ne savent pas grand-chose de l'histoire ukrainienne. L'histoire des périphéries est très peu enseignée en Russie, donc l'Ukraine est un pays finalement peu connu aux Russes, et donc le discours de Poutine peut porter d'autant plus que ça sonne sérieux, il y a des références, il a bossé le sujet, et finalement les Russes prennent, d'autant que les grands récits, le grand récit est quelque chose qui porte pas mal dans la culture russe et qui peut être repris, y compris dans l'enseignement de l'histoire.
Nous allons justement parler de l'enseignement de l'histoire avec Fabien Salès qui est au téléphone. Bonjour.
Bonjour Patrick.
Vous êtes professeur au Collège Jean Monnet de Lyon. Vous fûtes déjà notre invité à Histoire 2 à propos de la commémoration de l'assassinat de Samuel Paty en octobre dernier. Vous avez repris la classe dans une ambiance sans doute bien étrange. Quelles sont les questions de vos élèves ou peut-être de leurs parents à travers eux? C'est sur le prix du pétrole, c'est sur le danger nucléaire, c'est sur l'accueil des réfugiés?
Il y a un peu tout ça. Effectivement, dès lundi, il a fallu répondre à leurs questions. Et le préalable était on l'a tous fait comme ça, à partir d'une carte. Parce que l'angoisse et l'inquiétude des élèves, elles venaient aussi de cette guerre qui est proche, mais dont ils ne connaissent pas trop les territoires. Donc ça permettait de se poser, de se rendre compte pour eux qu'on allait avoir un temps d'échange là-dessus, et donc que toutes les questions étaient bonnes. Leur dire aussi que c'était normal d'avoir peur, d'être inquiet. Et là, effectivement, les questions sont venues. Bien entendu, dès le début, vous vous doutez bien que la question d'une possible guerre nucléaire était sur toutes les lèvres après l'intervention de Vladimir Poutine. D'autres questions aussi étaient là en fonction du niveau des élèves et de leur niveau de connaissance. Du coup, par exemple, en quatrième, on avait fait un chapitre sur l'immigration internationale. Les premières questions, au-delà de la guerre nucléaire, venaient sur la question de la solidarité avec les Ukrainiens et le fait qu'ils obtiennent ou non le statut de réfugiés. En troisième, vu qu'on avait fait les deux guerres mondiales et que nous sommes dans la guerre froide, les questions tournaient notamment autour de la dénazification, mais aussi de ce qui les avait déjà marqués et qu'ils voient dans l'actualité et qui est choquant, la mobilisation des civils et des militaires, les bombardements.
Oui.
Donc ces questions-là reviennent effectivement très, très souvent et il faut essayer d'y répondre en déployant un récit explicatif qui peut permettre de mettre en avant certaines causes, mais effectivement, on est obligé de s'arrêter en étant rigoureux et on ne peut pas leur répondre à tout. Il faut accepter de dire parfois « je ne sais pas » et accepter de ne pas les rassurer autant qu'on le voudrait ou autant qu'ils aimeraient l'être.
Dans un article du journal Libération daté du 3 mars, votre collègue François Darrocha-Carnero déclare, je le cite, « c'est avec nos armes que l'on va répondre, les armes de l'histoire, de la profondeur temporelle, de la géographie, des cartes, vous en avez parlé. Quand je dis « armes de l'histoire », c'est aussi pour désarmer l'utilisation qu'en a faite Vladimir Poutine dans son discours à des fins de propagande. » Donc il s'agit bien de ça, Fabien Salès, hein, c'est d'armer vos élèves contre aussi une guerre de désinformation, parce que on a parlé là de cette vision poutinienne de l'histoire. Alors peut-être que on a compris en France que voilà, les Ukrainiens n'étaient pas des drogués nazis, mais l'idée qu'il puisse y avoir quand même une symétrie entre l'OTAN et la Russie, ou que la Russie a été longtemps humiliée, ça, d'une certaine manière, on peut le ressentir.
Bien sûr, ces questions-là, on les a eues. C'est effectivement, là, notre but à nous, c'est de rendre les choses intelligibles pour faire diminuer leur angoisse, et effectivement de déployer un récit qui soit beaucoup plus factuel et précis. C'est l'occasion de reparler aussi des réseaux sociaux, beaucoup, parce qu'un certain nombre d'informations circulent là-dessus. Et là, les questions et l'usage des réseaux sociaux, ça nous permet aussi de voir émerger les questions des parents. Les questions sur l'OTAN, quand on les a vues arriver, on comprenait bien qu'elles venaient principalement des parents qui avaient entendu un certain nombre de choses et qui, par l'intermédiaire de leurs enfants, posaient la question aux enseignants. Ce qui est intéressant aussi, parce que ça permet d'établir un dialogue à trois bandes. Mais oui, depuis vendredi, par exemple, beaucoup de collègues avec qui je me suis entretenu ont eu des questions sur la lutte que Vladimir Poutine dit mener contre les nazis ukrainiens, avec, voilà, en toile de fond, mais s'il lutte contre les nazis, est-ce qu'il n'a pas raison ?
Sabine Dulin, rapidement.
Effectivement, historiciser un petit peu tout cela, montrer qu'il fait un usage partiel et partial de l'histoire, et rétablir un certain nombre de choses.
Ah ben voilà, c'est fini, c'est ça aussi les joies du direct. Merci à toutes, merci à tous. Cette émission a été préparée par Ophélie Vivier et réalisée par Xavier Pestugia. Je les remercie très sincèrement de leur mobilisation exceptionnelle en ce dimanche en direct. La technique était assurée aujourd'hui par Mathias Alléon et Jérôme Kaufmann. Vous retrouverez toutes les références bibliographiques sur le site de France Inter à la page de notre émission. Il sera encore question de Russie ce soir sur France Inter, puisque Stéphanie Duncan, dans Autant on emporte l'histoire, à partir de 21h, évoquera le livre interdit de Vassili Grossman, Vie et Destin. Quant à nous, eh bien la semaine prochaine, chose promise, chose due, nous recevrons Torfi Tulinius, qui nous parlera des sagas islandaises, d'une certaine manière. On sera peut-être encore dans le thème de l'Ukraine et de ses vikings. Merci Ulia Choukan.
Merci.
Merci Sabine Dulin.
Merci.
Merci Anna Colin. Les BDF, bon courage à
Merci.
Toutes et à tous, et à bon dimanche sur France Inter.